le journal.
Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. C'est le passage obligé tous les ans pour les pays de la zone euro. Ils doivent ce week-end présenter leur projet de budget à la Commission européenne. Bruxelles peut les obliger à revoir leur copie si les prévisions ne sont pas conformes au pacte de stabilité. Nous verrons avec Jean-Marc Chardon que la France aura bien du mal à respecter les 3% du PIB en termes de déficit. Nous parlerons aussi économie avec l'invité du journal de 22h, Laurence Daziano, spécialiste des économies émergentes à l'occasion du sommet des BRICS demain à Goa en Inde. Moscou et Washington condamnés à camper sur leur position demain à Lausanne en Suisse. Nouvelle réunion internationale sur la Syrie. La Russie a déjà fait savoir qu'elle n'attendait rien de spécial, nous dira Marc Crépin. Enfin, alors que le démantèlement de la jungle se prépare à Calais, les associations d'aide aux réfugiés s'accrochent à la justice avec une procédure d'urgence en référé liberté pour retarder l'évacuation. L'audience s'est tenue cet après-midi. Compte rendu en fin de journal avec Camille Marigaud. L'échéance approche pour les États membres de la zone euro. Ils doivent ce week-end présenter leur projet de budget pour 2017 à la Commission européenne. Conformément au pacte de stabilité et de croissance, les gouvernements doivent préciser comment leur déficit public restera inférieur à 3% du PIB. L'heure est aux contorsions pour le Portugal et l'Espagne dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne menace en effet de leur couper les vivres s'ils ne font pas preuve de plus de discipline budgétaire. Quant à la France, si le ministre de l'économie, Michel Sapin, maintient sa volonté de tenir les déficits. Les économistes sont dubitatifs. Jean-Marc Chardon.
L'édition 2017 du projet de budget de la France sera extrêmement difficile à tenir dans tous les cas. Déjà parce que le gouvernement a bâti son projet sur un scénario de croissance supérieur à ce qu'indiquent les instituts d'analyse économique. Hormone de croissance, c'est moins de rentrées fiscales. Ensuite parce que le gouvernement est aux prises avec des tensions fortes, notamment dans le secteur hospitalier, parmi les élus des collectivités locales qui regimbent sur le train d'économie à poursuivre. Et que des dépenses nouvelles sont encore à financer. Du coup, on a parlé de budget contraint, mais certains aussi de budget insincère, pas vraiment crédible. À quoi s'ajoutent les effets déstabilisants des échéances électorales? L'analyse de l'économiste suisse Michel Juvet.
Nous sommes dans une année électorale. En général, il n'y a pas de changement de politique budgétaire assez important à ce moment-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, le discours du FMI ambiant qui dit qu'il faudrait refaire de la relance budgétaire, voire augmenter votre déficit budgétaire, renforce la France dans son comportement, qui n'était pas un bon comportement, parce que c'est un pays qui n'a pas réussi à réduire son déficit budgétaire et qui n'a pas changé surtout ses dépenses budgétaires. C'est essentiellement dépenses de fonctionnement qui ont progressé. Donc non, je pense que malheureusement, la France va rester avec un déficit budgétaire plus important que les autres pays. C'est le plus mauvais dans la zone euro aujourd'hui. Et ne va pas changer ses structures dans une année électorale. Donc il n'y a pas grand-chose à espérer de ce côté-là.
Problème, comment la France pourrait faire entendre à la Commission européenne qu'elle ne serait pas en état une nouvelle fois de tenir ses engagements?
Malgré les pressions internationales, la Wallonie a tenu bon. À Namur ce matin, le Parlement de la région belge a mis son veto à la signature du CETA par la Belgique. La motion adoptée par les députés demande à l'exécutif régional de ne pas déléguer ses pouvoirs au gouvernement belge pour donner son accord la semaine prochaine au traité de libre-échange avec le Canada. Un débat qui alimentera la nouvelle mobilisation de la société civile demain dans plusieurs villes d'Europe, dont Paris. La question du libre-échange sera également au menu du sommet des BRICS qui s'ouvre demain à Goa en Inde. Et pour en parler, nous sommes avec une spécialiste des économies émergentes, Laurence Daziano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po et membre de la Fondapol. Les BRICS, c'est le club des pays émergents représentés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. À l'origine, c'est un concept financier inventé par un économiste de la banque Goldman Sachs en 2001. Aujourd'hui, vous dites que c'est en train de devenir un projet politique. Pourquoi ?
Alors effectivement, les BRICS sont nés de l'imagination de Jim O'Neill, qui était banquier chez Goldman Sachs et qui avait vu dans ces pays des valeurs à fort rendement qu'il conseillait à ses clients. Et puis, c'est devenu un peu plus tard un ensemble économique avec, lors du sommet de Fortaleza en 2014 au Brésil, la création d'une nouvelle banque des BRICS, qu'ils ont appelée la nouvelle banque de développement, qui se veut le pendant de la Banque mondiale, dans lesquelles les BRICS considèrent qu'ils sont mal représentés, notamment dans les instances de gouvernance. Et puis on voit maintenant que ce concept évolue, et là justement à Goa, pour la première fois, il y a même une foire internationale, de foire avec des entreprises. Il y a plus de 400 entreprises qui participent. Donc, on voit que le concept commence à se développer. Ils veulent même développer une zone de libre-échange. Et on voit que ce qui n'était qu'au début qu'un concept financier devient véritablement une organisation de pays qui ont et qui promeuvent des valeurs qui sont pas les mêmes et qui sont même en opposition avec celles de l'Occident et notamment des États-Unis.
Alors, projet politique qui se forme, mais pas encore vraiment concret, puisque cette banque de développement dont vous venez de parler, elle ne fonctionne pas encore très bien.
Alors, elle a été portée effectivement en 2014, elle commence à fonctionner, mais effectivement, elle se veut la challenger de la Banque mondiale. Il y a quand même un pas important à franchir. Elle n'en est qu'au commencement. Mais elle a été dotée d'un fonds important, notamment par la Chine, et elle a une ambition qui est très forte de concurrencer la Banque mondiale dans les fonds apportés aux pays émergents, en justement les déliant de toutes les concessions ou de ce que eux considèrent comme des concessions qui sont politiques sur la bonne gouvernance, la démocratie et les valeurs que les Occidentaux portent à travers les institutions de Bretton Woods.
Les BRICS représentent plus de 50% de la population mondiale. C'est aussi un quart de la richesse de la planète et ce n'est pas rien hein, dans un contexte de faible croissance. Le G20 au mois de septembre a demandé à ces pays dits des BRICS d'agir pour dynamiser l'économie mondiale, en ont-ils les moyens ?
Alors, ils en ont les moyens, oui, oui et non. À eux seuls, les BRICS ont une croissance de 5,1%. Donc, on voit bien que ce sont les BRICS qui, aujourd'hui, tirent la croissance mondiale. En même temps, au sein des BRICS, il y a une certaine hétérogénéité. Il y a des pays qui profitent actuellement notamment de la baisse du prix des matières premières. C'est l'Inde en premier lieu, c'est la Chine. Et puis, il y a les pays qui sont producteurs, notamment de pétrole, qui, eux, marquent le pas. Et vous avez une récession qui a été très importante en Russie en 2015, avec pratiquement -3,5% du PIB. En 2016, la récession sera un petit peu moins importante, on sera entre -0,5% et 1%. Le Brésil souffre également, en plus de ses problèmes politiques internes, souffre de la chute des prix du pétrole avec une récession qui sera également importante en 2016 à -3%. Donc on voit qu'il y a des déséquilibres au sein de ces pays, mais que néanmoins la tendance est que aujourd'hui encore ils tirent l'économie mondiale.
On vient de l'entendre, disparité économique, tension géopolitique aussi, des problèmes de frontières entre l'Inde et la Chine ou encore entre la Chine et la Russie. Sur quoi tient finalement cette identité des BRICS ?
Elle tient essentiellement cette identité BRICS, entre guillemets, au fait qu'ils veulent se développer en opposition, comme je le disais tout à l'heure, au modèle occidental, aux valeurs occidentales, d'une économie libérale et d'un parlementarisme démocratique.
Mais en même temps, diplomatiquement, les BRICS ne parlent pas d'une seule voix. On peut prendre l'exemple de la Syrie.
Exactement, effectivement, ils ne parlent pas d'une seule voix. Ils ont parlé d'une seule voix l'année dernière au moment de la conférence de la COP21 sur les questions environnementales, parce que là, ils avaient des intérêts communs. Sinon, vous avez raison, au sein notamment de l'ONU ou dans les conflits qui existent aujourd'hui, ils ne parlent pas d'une seule voix. En Syrie, c'est essentiellement la Russie qui est aujourd'hui un des acteurs clés du conflit, qui est soutenu par la Chine, mais les autres BRICS n'interviennent pas dans le conflit. Donc au niveau diplomatique, effectivement, ils ne sont pas encore arrivés à cette maturité et à cette convergence d'intérêts qui ferait qu'ils seraient un acteur important sur la scène mondiale, ce qui n'est pas le cas dans le domaine économique, où là, ils arrivent à se retrouver.
Merci Laurence Daziano d'avoir été l'invitée du journal de 22h de France Culture. Vous êtes spécialiste des économies émergentes à Sciences Po. En Syrie, à Alep, les secouristes travaillent sans relâche dans les quartiers rebelles. De nouveaux bombardements du régime et de son allié russe ont frappé la ville la nuit dernière et ce matin. L'Observatoire syrien des droits de l'homme n'a pas encore annoncé le bilan humain. À la veille d'une nouvelle réunion internationale à Lausanne, en Suisse, François Hollande a rappelé les exigences portées par la France, cessez le feu et acheminement immédiat de l'aide humanitaire. Mais il y a peu d'espoir que les négociations avancent. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré cet après-midi ne rien attendre de cette nouvelle réunion. À Moscou, la correspondance de Marc Crépin.
L'agence TASS rappelle aujourd'hui que la Russie a toujours eu une position constructive sur la Syrie, mais ajoute que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n'est pas très optimiste. De Yerevan, en Azerbaïdjan, où il se trouve avec Vladimir Poutine, il affirme qu'il n'attend rien de spécial de la réunion de Lausanne. Il ne pense pas que les Occidentaux auront évolué par rapport au choix de la Russie. Et surtout, il répète que les discussions pour obtenir un cessez-le-feu ne sont rien d'autre qu'une façon de ménager les rebelles du groupe Al-Nosra, qui se prétendent modérés mais qui veulent la perte de Bachar al-Assad. Les diplomates russes et américains se retrouvent pour la première fois depuis la rupture du 3 octobre. Les Occidentaux accusaient alors la Russie de crimes de guerre, pendant que le Kremlin expliquait qu'il ne faisait que combattre tous les terroristes en bombardant Alep. Chaque camp semble donc devoir camper sur ses positions.
La correspondance de Marc Crépin à Moscou. Concernant le Yémen, après les bombardements de dimanche dernier dans la capitale Sanaa, qui a fait 140 morts, le Royaume-Uni veut proposer un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte qui demande aussi un accès à l'aide humanitaire devrait être présenté aux 15 membres du Conseil de sécurité dans les prochains jours. En Haïti, le premier tour de la présidentielle et des législatives se tiendra le 20 novembre, le deuxième tour le 29 janvier prochain. Conséquence de l'ouragan Matthew qui a tué au moins 473 personnes la semaine dernière et qui vient de déclencher une nouvelle crise humanitaire. Toute la partie méridionale du pays a été noyée sous des pluies diluviennes et secouée par des vents très violents. Il y aurait plus de 175 000 sinistrés selon l'ONU qui craint une famine dans les 6 mois. À quelle est la date de démantèlement de la jungle reste toujours inconnue, même si l'hypothèse du 17 octobre a été un temps avancée. 11 associations ont lancé une procédure d'urgence devant la justice pour suspendre l'évacuation à venir. Ce référé liberté a été examiné cet après-midi par le tribunal administratif de Lille, action en justice qui vise la préfète du Pas-de-Calais. Les défenseurs des réfugiés estiment qu'en l'absence de solution pérenne pour tous les exilés, il faut retarder ce démantèlement. Camille Marigot, vous avez assister à cette audience.
La grande crainte des bénévoles, c'est que les migrants qui refusent de rester en France disparaissent dans la nature au moment du démantèlement et de leur conduite dans les centres d'accueil et d'orientation, les CAO. Un diagnostic de leur projet est donc nécessaire et d'ailleurs déjà entamé par ces organisations qui réclament plus de temps pour le mener à bout. François Guénoc, vice-président de l'Auberge des migrants.
On met en place un téléphone rouge pour au cas où ils seraient en difficulté. On est en train de faire, de commencer ce travail de recensement sur les mineurs avec une localisation précise sur le camp. On va mettre en place des équipes pour au cas où le gouvernement évacuerait ces mineurs soient mis à l'abri, et si possible en lien avec la police, c'est-à-dire qu'ils soient mis dans des endroits où ils soient véritablement sous protection. Donc de toute façon, nous on travaille.
La préfecture affirme pourtant que les migrants ont bien été recensés et leur situation étudiée, mais pour Julie Bonnier, l'avocate des associations, aucun document ne le prouve à l'heure actuelle.
Ce qui est toujours difficile aussi, c'est que la préfecture vient à l'audience en demandant qu'on fasse confiance et qu'on lui donne acte, et en ne produisant pas de justificatif à ce qu'elle avance. Donc c'est compliqué d'avoir 200 pièces, d'avoir des attestations, des témoignages, des justificatifs de tout ce qu'on avance et de s'opposer aux représentants de l'État qui produit quasiment aucun document et d'ailleurs aucun calendrier, aucune information concrète réelle.
Un manque de transparence qui laisse place aux rumeurs et pousse certains habitants du camp à précipiter leur tentative pour rejoindre le Royaume-Uni, notamment les mineurs isolés. Ils seraient près de 1300 sur le camp, dont environ 500 affirment avoir de la famille de l'autre côté de la Manche.
Les précisions de Camille Marigot de France Bleu Nord. Le tribunal devrait rendre sa décision en début de semaine prochaine. Ce soir, le Conseil de l'Europe demande aux autorités françaises de publier un plan détaillé des solutions de relogement pour les milliers de personnes concernées. Quant à la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, elle déclare que le démantèlement commencera quand toutes les conditions de sa réussite seront réunies. Nous y sommes presque et nous irons jusqu'au bout, a-t-elle précisé. Les magistrats saluent un début d'explication après la lettre de regret envoyée par le président Hollande aux représentants de la justice. Le chef de l'État a été obligé de réagir après la bronca qu'il a suscitée en taxant de lâcheté l'institution judiciaire. Cela dans des propos rapportés dans un livre de journaliste qui vient d'être publié. Les magistrats qui préviennent néanmoins qu'il faudra du temps pour que les choses se cicatrisent. Dans l'enquête sur la viande de cheval vendue comme étant du bœuf, deux anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero et deux négociants néerlandais viennent d'être renvoyés en correctionnel par le parquet. C'est maintenant au juge d'instruction de dire s'il suit ou non ces réquisitions. Cette affaire avait provoqué un scandale alimentaire en France et dans plusieurs pays d'Europe il y a quasiment 3 ans. Enfin, Bob Dylan, prix Nobel de littérature depuis hier, n'en finit pas de surprendre. L'Académie à Stockholm n'arrive toujours pas à avoir une conversation directe avec le chanteur, qui a pourtant joué hier soir à guichet fermé à Las Vegas et qui a enchaîné les morceaux comme si de rien n'était. La météo de votre samedi, le Var restera en alerte orange jusqu'à 6h demain matin. Puis ça sera le retour du soleil autour de la Méditerranée. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, sauf sur la pointe bretonne où des averses orageuses sont attendues. Il fera dans la matinée 11 à Dijon, 12 à Paris, 19 à Marseille et 20 à Ajaccio.